Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Le Guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain, très attendu, le Nissan Ariya qu'on nous a présenté il y a maintenant plus d'un an et demi.
Un véhicule que tu avais vu dans sa forme conceptuelle en 2019.
C'est ça.
Et on se serait attendu à ce que ça débarque sur le marché en même temps que les autres multisegments électriques. On peut penser à la Ioniq 5, au V6, au Mustang Mach-E, etc., etc.
Puis là, ben moi, la question que j'ai pour toi, avant même qu'on parle de l'Ariya, c'est où s'en va Nissan? Parce qu'actuellement, il y a des Nissan Leaf en inventaire chez les concessionnaires qui peinent à trouver preneur.
Ouais.
Les Ariya, ça débarque au compte-gouttes. On a eu de gros problèmes de fabrication. Sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, c'est un méchant Ariya.
Ouais.
Et là, ben, on avait d'abord mis à l'essai la version 2 roues motrices. Et ce que tu es allé essayer la semaine dernière, c'est la version, comment on la prononce? 4?
C'est la version E4 Ours. Donc, il faut prononcer là, « force », là, parce qu'il y a comme un jeu de mots. «
E-force ».
Oui, donc entre « 4 » et « force », là, on essayait de faire un jeu de mots. En tout cas, c'est pas évident à expliquer verbalement. Là, mais
ça marche en anglais.
Ça marche en anglais, là, mais « E-4 horse », c'est quand même ordinaire. Il faut dire « E-force », là, mais ça fait pas mal « E-force
».
En tout cas, je trouve que on l'a échappé complètement dans la nomenclature. Mais
un
«
Ariya E-force ».
Un « Ariya E-force ».
Quand même, c'est ça.
On l'a. Mais tu nous parlais de problèmes de production. On a eu des problèmes de développement avec ce véhicule-là. C'est pour ça que ça a été si long avant qu'il arrive enfin. Et là, ben, à l'usine au Japon, on a des problèmes de production et d'assemblage. On n'a pas la pleine capacité. Et c'est pour ça qu'il arrive aussi lentement sur notre marché. On est à peu près à la moitié de la capacité.
Étonnant que ce soit un véhicule assemblé au Japon parce que rares sont les véhicules japonais aujourd'hui commercialisés chez nous qui sont assemblés au Japon. Chez Nissan, il y a la Z.
Ouais.
Mais mis à part ça, ce sont tous des véhicules fabriqués aux États-Unis ou au Mexique. Là.
Puis cette question-là a été soulevée aux dirigeants. Puis on nous a dit qu'on aurait peut-être éventuellement des annonces faites en ce sens. Alors, est-ce qu'on pourrait rapatrier une partie de la production
en
sol nord-américain, comme l'a fait Volkswagen, d'ailleurs,
ben oui.
Parce qu'avec ses ID4, tout était fait en Allemagne. Bon. Bref, on s'égare un peu. Alors,
non, mais on sait que le Murano est fabriqué au Tennessee.
Bon, ça.
On ne sait pas s'il y aura une prochaine génération de Nissan Murano, mais clairement...
On le sait pas, puis on n'a pas de boule de cristal, là, mais la dernière refonte du Nissan Murano remonte à 2015.
Ouais.
C'est un véhicule complètement dépassé sur tous les aspects.
Ouais.
On sait que c'est peut-être pas un segment qui est en plein essor. Là, le multi-segment...
intermédiaire à deux rangées.
VUS intermédiaire à deux rangées, là, tout ce qui est Edge, Blazer, Murano, etc., c'est pas, ça n'a pas le vent dans les voiles, comme on dit. Alors, de l'autre côté, on a Nissan qui nous dit « Ah, 2030, on va avoir des véhicules électriques, blablabla, blablabla. Bla, » Alors, là, on est rendu en 2023 avancé. Est-ce qu'on nous présenterait en 2024 ou en 2025 un Murano à essence de nouvelle génération? Permets-moi d'en douter pour le retirer ensuite.
Ça n'arrivera pas.
Ben non.
Ça
n'arrivera pas. Dans ma boule de cristal, ce que je vois, c'est que l'Ariya prendra éventuellement la place du Murano. Et on nous l'a dit à mots couverts. Parce que finalement, quand on nous parle de l'Ariya, on nous dit quoi? On nous dit que c'est un format de Rogue, mais avec un espace habitable aussi grand que le Murano. Murano. Alors, à quoi bon choisir le Murano? Excellente question.
Oui, oui. Bon, maintenant, comment ça va? Est-ce que c'est convaincant? Quels sont les crédits applicables?
Bon, c'est rien de révolutionnaire. Je me suis fait un grand café avant d'embarquer à bord de ce véhicule-là.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des grands porte-gobelets.
Il y a des grands porte-gobelets. C'est rien d'exceptionnel. Je vais te le dire, là, c'est très, très, très ennuyant à conduire. Ça va pas mal. C'est confortable.
On sent la lourdeur?
On sent la lourdeur, bien sûr, mais le système, justement, E-Force, là, puis bon, je suis pas ingénieur mécanique, là, mais Et bon, tu veux qu'on aille sur ce terrain-là? Parfait. On nous a amené à la piste d'essai de Sonoma avec un VUS électrique. Déjà là, je comprenais pas
de
ce qu'on fait.
2500 kilos.
Oui, ouais. Et on nous a fait là, éviter des cônes et tout ce que tu veux. Ah. Le système fonctionne assez bien. Le véhicule demeure plutôt stable malgré son poids parce que on va pouvoir freiner une roue intérieure et donner plus de jus à une roue extérieure. Mais en même temps, quel utilisateur d'un Nissan Ariya va vivre cette expérience-là, ça arrivera jamais de la vie. Là, ça n'arrivera pas. Alors, non, c'est pas... en fonction de la version choisie, parce qu'on a petite et grande batterie, roue motrice avant ou quatre roues motrices.
Ouais.
Bon, l'autonomie varie, là, mais c'est quelque chose entre 300 et 400 et des poussières. Donc, vraiment, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est un produit qui aurait vraiment dû arriver quelque part
il y a deux ans.
En 2020, oui, ouais. Voilà. Et on arrive sur le tard avec rien de plus que ce que les gens, que ce que les véhicules sur le marché proposent déjà. Bon, tu voulais qu'on parle de prix. Toutes les versions ont droit au 12 000 à roue motrice avant, mais seule la version Evolve E4 Horse, elle... Ça, je sais, c'est comme ça.
Ariya Evolve E4.
Oui, seulement celle-là a droit au crédit de 7 000, parce que sinon, on dépasse le seuil qui est imposé. Alors, si on veut une version à quatre roues motrices, on doit se contenter, grosso modo, de la version d'entrée de gamme. Mais on n'a pas eu la confirmation du programme provincial qui tarde à mettre à jour son système. Alors, et comme on change d'idée, comme on change de chemise...
Et pourtant, le véhicule est arrivé en concession. Là, j'ai commencé à en voir quelques-uns.
C'est des versions à roues motrices avant qu'on livre seulement.
Parfait.
Donc, on arrivera au printemps avec les versions E4 Horse.
c'est pour... épouvantable comme
demande. Je pense que je vais l'appeler comme ça, E14. Bref, rien de révolutionnaire, mais en même temps, il y a une grande demande pour les véhicules électriques que j'appelle de nouvelle génération. C'est spacieux à l'intérieur, c'est bien fini, tu vas me dire, évidemment. 69 000 $ ce serait gênant que ce soit pas beau à l'intérieur, parce qu'il est cher, l'Ariya. Il est très cher. En tout cas, de ton côté, tu as conduit un véhicule peut-être un peu plus passionnant et inspirant, je l'espère du moins, c'est le Maserati Grecale.
Oui, Grecale, non pas le Grecal.
Le Grecal.
Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, évidemment, VUS plus compact que le Levante, qui tire également
c'est
son
format,
nom.
C'est format Porsche Macan, là.
Oui, littéralement. Un petit peu plus grand. Je dirais qu'à l'intérieur, il y a un peu plus d'espace, on se sent moins à l'étroit. La présentation intérieure, elle est très belle, bien qu'on reconnaisse certains des éléments d'interface de chez Chrysler. Ce sont pas les mêmes écrans. On a vraiment personnalisé l'habitacle pour le distinguer le plus possible des produits Chrysler Jeep Dodge, là, parce qu'un Levante, lorsque tu prends place à bord, c'est le même écran qu'un Ram, ce sont les mêmes commutateurs de glace qu'un Dodge Grand Caravan. Bref, ça, on a mis ça de côté. On s'est organisé pour moderniser le véhicule.
Toi, tu conduisais une version Modena avec une inscription Cheapala sur les ailes avant, en haut des trappes Buick.
Moi, je détestais pas, honnêtement.
C'est pas une Ferrari 360, là. On va se calmer le Modena, là.
Ouais, ben c'est ça. Alors, ta version...
Avec des trappes Buick. Tu sais, c'est tout ça, là, réuni. Je trouve que ça fait cheap, pas à peu près.
Mais t'as trois versions. GT, Modena et, évidemment, la version Trofeo, qui est le modèle de haute performance. Où là, tu as 523 chevaux, V6 3 litres biturbo. C'est un autre registre complètement. Ça vient rivaliser avec des Jaguar F-Pace SVR, avec Macan GTS, ce genre de machine-là. Mais dans le cas qui me concernait, pour une version GT ou une version Modena, tu as un 2 litres turbo compressé. C'est 296 chevaux dans le cas de la GT, c'est 325 dans le cas de la version Modena. La nuance est probablement pas très grande. Le 2 litres sonne pas vraiment mieux que le 4 cylindres 2.2 litres d'un Pontiac Sunfire, honnêtement. Donc, la sonorité, c'est pas ça pantoute.
On est loin de la mélodie italienne qu'on retrouvait dans une Gran Turismo. Là,
c'est très
exemple.
Ordinaire.
D'accord.
C'est très ordinaire. Les performances sont très correct. Est-ce que tu ressens 325 chevaux? Pas vraiment. Mais ce qu'on
dynamiquement, c'est bien. Le châssis est rigide. C'est capable
de se
donner.
Avant d'arriver là, juste te dire qu'il y a une hybridation légère qui accompagne cette mécanique-là. Et pas pour la consommation de carburant, parce que j'ai fini ma course à peu près 11 litres au 100 avec un 2 litres. C'est très ordinaire. Mais ça permet d'aller chercher un couple initial qui est plus intéressant. Fait que tu as un alterno-démarreur 48 volts. Etc., avec une batterie. Un peu plus de technologie pour pas grand-chose, mais le couple initial est intéressant, c'est ce qu'on retient. Mais côté conduite, direction qui est pas précise, c'est loin d'être celle d'une Porsche, ça c'est ma grande déception. Châssis qui est superbe, c'est le même châssis qu'on va retrouver avec l'Alfa Romeo Stelvio et avec le nouveau Grand Cherokee. Donc on appelle ça la plateforme Giorgio.
C'était pas un restaurant, ça?
Oui, c'est ça.
Italien, d'ailleurs.
Oui, alors. Mais tu vois, je circulais avec le véhicule et à 19h, les lumières ne se sont pas tamisées. Alors, ça, j'ai trouvé que c'est une option qui aurait dû s'y trouver.
À quand le Maserati Pacini?
Oui, c'est ça.
D'accord.
Cela étant dit, ça roule très bien. La suspension est géniale. On peut l'ajuster. Je sais que dans la version Trofeo, tu as une suspension pneumatique où là, ben, il y a une autre dimension qui embarque. Mais autant la direction, je l'ai trouvé ordinaire, autant la suspension, la structure, j'ai trouvé que c'était très, très bien adapté. J'ai beaucoup aimé les sièges, la position de conduite. Il y a beaucoup d'éléments très intéressants, mais évidemment, la facture fait mal. Ça commence à 75 200 pour une version de base, là,
en même
sans
temps,
option.
Ma carte, on te le donnera pas non plus.
Non, je sais bien. Mais est-ce que Maserati a la même notoriété en termes de revente, en termes de fiabilité que Porsche? Oui, on n'est pas là. Et la version que je conduisais, prix d'entrée à 85 200, j'avais pratiquement 15 000 $. Ben j'avais, oui, j'avais 25 000 $ d'options sur le véhicule. Viens ajouter à ça les taxes de luxe, 3 900 de transport préparation. J'étais à 115 000 et j'étais toujours avec un 2 litres.
Ça fait rêver.
Ça commence à être pas mal cher là, pour cette machine-là. Mais honnêtement, j'ai envie de te dire que c'est le plus beau véhicule du segment. Le look est fantastique.
Et tu le mentionnais, après 3 ou 4 ans, ça va valoir combien, là, ça?
C'est ça.
C'est une excellente question.
Il faut y aller de façon modérée avec les options, je pense, parce que oui, il y a des trucs qui sont intéressants, mais il y en a d'autres qui sont un peu superflus.
Est-ce que tu as fait les calculs? Est-ce qu'on est mieux de le louer, de l'acheter? Est-ce que tu as
fait... Les valeurs résiduelles sont pas très élevé. Hein, ouais. Alors, tu sais, puis évidemment que le taux de financement est plus bas que le taux de location. Mais bon, acheter ce véhicule-là ou le louer, c'est... Parce que recommander l'achat d'un Maserati sur du 8 ans, il y a ça aussi. Fait que c'est... Est-ce que c'est un véhicule que je recommande les yeux fermés? Non, de toute façon, rendu là, il n'y a rien de rationnel à se procurer ce genre de machine-là. Mais ce que j'aime, c'est que c'est différent d'un X3, d'un Q5, d'un GLC. Tu sais, c'est vraiment un véhicule champ gauche. Il y a des petits défauts. La sonorité mécanique puis la précision de la direction, pour moi, ce sont les éléments qui déçoivent un peu. Mais sinon, puis ce qui est le fun, c'est que Maserati va t'offrir un plan d'entretien complet pendant 4 ans. Puis le véhicule est garanti pendant 4 ans, 80 aussi.
Ah, ça, tu vois, c'est intéressant.
Fait que t'as ça qui
pour une clientèle qui sera peut-être un peu craintive à aller vers une marque moins connue ou une marque, tu sais, je sais pas, on a quoi comme taux de premier acheteur, tu sais, avec un véhicule comme ça.
Parce que là, la gamme Maserati a énormément vieilli. Là. La Ghibli, la Levante, ça commence à être du vieux stock. Mais là, cette année, on arrive avec le Grecale. On a vendu 620 Maserati l'année passée au Canada. On compte doubler ce chiffre-là cette année, puis je pense qu'on va l'atteindre très facilement. Faut pas oublier qu'on a la MC20 qui est arrivée aussi. Ça, c'est une voiture exotique qui se vend au compte-gouttes, bien sûr, mais il y aura aussi la Gran Turismo, nouvelle génération qui va arriver.
C'est pas fait non plus.
Et d'ici la fin de l'année, il y aura un Grecale 100% électrique qui sera vendu comme un 2024.
Un Grecale E?
Oui, c'est ça. Le Fulgore.
Oui.
Il va s'appeler le Fulgore. Alors.
Qui veut dire foudre, si je ne m'abuse.
Mon italien est un peu rouillé, mais d'accord, je me fie sur toi. Alors, c'est une machine qui, je pense, risque de connaître un certain succès. Tout dépend encore une fois de sa facture. Mais rendu là, la multiplication des véhicules électriques de grand luxe va faire en sorte que la personne qui veut s'en procurer un aura un choix génial. Et la bonne nouvelle, c'est que Tu sais, quand tu achètes un véhicule électrique d'une marque en laquelle tu n'as pas nécessairement toujours confiance, ben tu as juste plus de chances que ce soit plus fiable. Tu sais, Volvo connaît quand même un certain succès avec ses électriques, alors qu'on a eu des problèmes mécaniques longtemps. C'est peut-être un baume sur...
On croise les doigts.
C'est ça. Mais pour l'heure, je te dirais que, tu sais, le 4 cylindres, ça fait une job très honnête. C'est juste que ça sonne un peu... Puis c'est drôle parce qu'on mentionne avoir travaillé pour lui donner un son exotique et c'est pas ça du tout, là.